cette chaleur aveuglante, cette lumière horriblement transpirante, ma foi, ne serait-on pas en été ?
Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 25 juin 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Dirty Dancing et à 17h éphémère, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voilà le magazine de l'économie que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
La nana, que je ne citerai même pas, pourtant elle est assez connue, hein, a complètement descendu le film sous prétexte que la 3D était pourrie, qu'on pouvait très bien se passer de 3D. Elle a plus parlé de la 3D actuellement au cinéma, avec l'exemple de Titeuf en 3D.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Gastric. Et la participation exceptionnelle de JB.
Et oui, on aurait eu peur, mais effectivement, nous sommes en plein été et ma foi, on recommence à transpirer. Et oui, le psychopathe ne s'est pas trompé puisque leur numéro double d'été, le numéro 233, qui vaut 8 euros exceptionnellement, puisque c'est un numéro double, 200 pages, est consacré à ce grand moment que nous attendons tous de prendre le volant et de faire les couillons. Il faut dire que on sait que les radars désormais seront toujours prévenus à l'avance, qu'ils auront des vertus pédagogiques et en plus que dans un an, notre nouveau président réélu va sûrement nous faire sauter les PV. Alors on peut y aller, on fait un spécial sécurité routière avec un dessin de Casa en une où un gendarme est en train de verbaliser un automobiliste de 3 points parce qu'il n'a pas le port de la ceinture, automobiliste qui vient de se tuer contre un platane. C'est vrai que on voit très bien quelles sont les priorités, je vais dire, gouvernementales, aussi bien priorité à droite d'ailleurs, qu'autre chose. Mais ça, vous le découvrirez en kiosque. Normalement, ça doit arriver la semaine prochaine. Et ceux qui sont abonnés au Psychopathe l'ont déjà reçu. Donc 8 euros, toujours sans pub et numéro fortement édifiant avec bien évidemment les dessinateurs habituels, Carali bien sûr, donc Casa, Olivier K, Melaka, Coudré, Ratila, Bar, Carit, des Rocs à marteau, tiens, comme par hasard, et plein d'autres. Bonjour du sport.
Bonjour.
Ma femme m'a dit hier que Peter Falk est mort.
Tout à fait.
Ouais, j'ai cru comprendre que c'est pas Patrick McGowan qui est le coupable.
Bah non, certainement pas. Pour une fois. Et il aurait du mal vu qu'il est mort un petit peu plus tôt.
Et pour reprendre quelque chose que j'ai lu sur un réseau social qui m'a beaucoup fait rire,
ouais.
Peter Falk est l'homme qui, bien avant Steve Jobs, a popularisé l'expression « Oh, one more thing ». Parce que à chaque fois il revient, donc
C'est peut-être inconscient de la part de Steve Jobs.
C'est pas impossible.
Voilà. Bon, il faut savoir que Peter Falk depuis quelques années ne faisait plus d'apparitions en public, était retiré de la vie active parce qu'il avait la maladie d'Alzheimer.
Ouais, il était sous curatelle depuis deux ans, d'après ce que j'ai appris. La dernière apparition à la télévision, c'était pour un autre téléfilm il y a cinq ans. Où exceptionnellement il y avait une musique d'ouverture, une musique de générique, parce que
ouais.
L'inspecteur Columbo.
Eh ben non, il n'y a pas de générique de Columbo.
Et pourquoi il n'y a pas de générique à Columbo ? Alors, vous pouvez toujours demander à votre femme, poser vos réponses à notre service SMS plus surfacturé, ou attendre que du sport ait fini de boire son eau gazeuse pour vous dire la bonne réponse.
Ah ben j'en sais rien.
Parce que tout simplement, c'était dans le cadre d'une case horaire sur la chaîne qui le diffusait, qui s'appelait Theater of Mystery, le spectacle du mystère, et que donc il y avait déjà un générique dedans, et Columbo est devenu une série à l'étranger, mais aux États-Unis Columbo était tout simplement une série récurrente dans une autre série. Donc on n'avait pas foutu deux génériques. Là, la suite de l'autre, ça faisait un petit peu tartouille. Donc c'est pour ça que il y avait juste un petit truc jazzy en général en ouverture, mais sans plus. Il n'y avait pas de thème réellement définissable dans les Columbo. Voilà, je crois qu'on a suffisamment cuisiné le poisson maintenant.
Ouais. Bon, moi je voulais juste revenir sur le fait.
Elle était pas drôle ma blague.
Si.
Ah
mais,
bon.
Sur le fait que dans l'article de la Dépêche d'aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même un huitième de page consacré à la mort de Peter Falk, ils ont un petit peu inverti les données.
Non, mais c'est Nadine Montier qui a refait l'article, comme d'hab. Ouais. Donc, tu sais, elle est capable de se tromper même sur la distribution des films qu'elle a vus une heure avant. Donc.
Non, mais pire que moi. En parlant de ses collaborations avec John Cassavetes. En disant que c'était lui qui avait découvert Pete Cassavetes, John Cassavetes, pardon. Alors là, bon, bah ok, d'accord, bon, on va rien dire de plus, hein. Faut réviser ses classiques quand même. Et revoir les vieux films de John Cassavetes sur noir et blanc, là, des années 60, même sur couleur, Love Stream et tout ça.
Oui, hein, tout à fait.
Parce que bon, on verra que bah il y avait... plus, c'était vraiment de l'amitié qu'il y avait entre eux, hein. Ils formaient une espèce de bande, hein. Il y avait également Ben Gazzara dans cette bande, hein, avec John Cassavetes, Peter Falk, et qui s'attachait à faire un cinéma un petit peu différent du cinéma hollywoodien, hein. Voilà.
Donc encore une fois, on est obligé de faire les errata de la Dépêche, mais c'est vrai que des fois ils nous ont rattrapés, donc on va pas trop leur en vouloir.
Oui, et on va pas se gêner non plus.
Page 4 du sport, page 4, oui. Oui, sur le conducteur, tout simplement, parce que on va parler de Eugène Collin, alias Jean Collin, qui donc nous a quittés avant-hier, à l'âge de 84 ans. C'est un dessinateur de BD qui est né le 1er septembre 1926. Qui a parfois d'ailleurs travaillé sous le pseudo de Austin Adams et qui restait actif quand même très tard. Hein. Je crois qu'il a encore sorti une BD il y a 3-4 ans. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a eu une très très longue carrière dans le comics. Et pas forcément dans le comics de super-héros, même si c'est surtout là-dessus qu'on le connaît. Enfin, qu'on le connaît. Je dois avouer que moi et du sport... On connaissait pas trop, hein, juste de nom. C'est nos copains d'Actua BD qui nous ont dit, bande de nuls. Et du coup, il a fallu faire les recherches en catastrophe. Faut dire que il a fait des études artistiques où il a rencontré quand même des peintres contemporains, qui plus tard allaient avoir une carrière connue. Et déjà, il avait eu des profs prestigieux, donc plutôt relativement costaud. Il est entré à l'Air Force en 1944, donc sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais on est encore dans la guerre du Pacifique face aux Japonais. Il commence à ce moment-là aussi en parallèle à travailler pour Fiction House, pour des séries d'aviation.
Tu m'étonnes.
Wingtips, Clipper Kirk, Suicide Brigade, qui à l'époque était très à la mode, hein. Forcément, hein, effort de guerre oblige, mais aussi le sont restés un petit peu après. Des séries qui marchaient aussi bien auprès des gamins, des jeunes, que des soldats mobilisés, puisque certaines séries étaient plus ou moins commissionnées par l'US Air Force. Et à l'époque, on n'hésitait pas à montrer, je vais pas dire des tripes, mais à montrer des situations un petit peu violentes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore passé la période du macartisme et tout ça. C'est venu bien après, avec donc le fameux Comic Code Authority. Après cela, eh ben, en 1947, il rentre dans une petite boîte qui s'appelle National Periodic Publication, à savoir DC Comics. L'année suivante, il entre aussi à la Marvel, à l'époque où la maison des idées s'appelait encore Timely Comics. Il a travaillé la plupart des grands personnages de ce label. C'est le Silver Surfer, Iron Man, Captain America. Et il a travaillé sur Daredevil entre 1966 et 1973, qui est considéré comme l'arc le plus important en fait de ce personnage de l'avocat aveugle, donc avec ses grands doutes aussi, hein, puisque je crois que c'est dans un de ses épisodes où il doit défendre Kingpin, il me semble. Donc c'est vraiment, je vais dire, la période d'âge d'argent du comic book. Il a créé des personnages, puisque Stan Lee lui a confié The Falcon, le premier super-héros afro-américain de l'histoire du comic book. On est à l'époque en pleine Blaxploitation, au début des années 70. Il a été en charge justement de gérer un super-héros noir qui n'a pas tenu.
Non, ça n'a pas tenu longtemps, hein, d'ailleurs.
D'ailleurs, ils ont tous, en général, fait chou blanc.
Bah, à part.
Pardon, désolé.
À part Luke Cage, quoi. Qui est encore présent.
Oui. Oui. Parce qu'après, ils ont vraiment marché, mais à partir des années 90, hein, c'est plus à ce moment-là qu'ils sont lancés quand c'était en dehors d'une question de politiquement correct. Il relance accessoirement le comics d'horreur qui, justement, à cause du Comic Code, était tombé franchement en désuétude chez DC Comics. D'abord pour un label indépendant, puis pour Marvel, avec la série The Tomb of Dracula, qui a permis le retour d'un genre qui a été pratiquement brimé. On y doit aussi les meilleures pages de Howard Duck, qu'il reprit dans les années 70 avec Steve Gerber au scénario. Dans les années 80, il fit un passage remarqué chez DC sur Batman, Detective Comics ou encore Night Forces, qui est une histoire policière, hein, et Nathaniel Dusk, où là il réalise en fait les planches en couleur directe, sans ancrage, c'est-à-dire il fait les crayonnés et puis hop, il colorise directement, ce qui à l'époque était une révolution, hein, quand même dans la bande dessinée américaine dans les années 80, où on était encore dans les couleurs relativement pétales et sur les aplats qui étaient vraiment conçus pour l'offset ou sur du tramage. À cette même époque, il adapte en BD les succès hollywoodiens tels que Meteor, Aliens, Predator, Blade, et même il a fait dans les années 2000 Buffy contre les vampires. Il a été admis de son vivant dans le Hall of Fame des plus grands auteurs de bande dessinée, recevant un Eisner Award pour l'ensemble de son œuvre à San Diego en 2005. Franck Biancarelli du Livre des Destins a confié donc à l'équipe d'ActuABD, c'est un des très grands dessinateurs du comic book qui vient de mourir, l'un des grands styles originaux qui avait adapté le clair-obscur de la photographie et le dynamisme exagéré à la Kirby pour un résultat qu'on ne pouvait confondre sans aucun autre. Daredevil, Iron Man, Submariner, Doctor Strange, Dracula, Captain America, tous ces passages sur une série sont demeurés des références absolues. Vous pouvez avoir plus d'infos, bien évidemment, dans le site ActuABD, dans la biographie qu'a sorti Didier Passamonique, et on s'est aussi appuyé sur la dico mondiale de la bande dessinée de Patrick Gomet. Cet après-midi, si vous voulez faire quelque chose sous ce soleil radio et transpirer un peu, Music Addicted est un après-midi thématique qui aura lieu au Tokyo Café, donc le manga Kina qui est en face de la place Bernard, je vais y arriver, à la place d'un ancien, mais surtout à la place d'un ancien loueur de VHS.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, d'ailleurs, dont j'ai toujours pas retiré l'un des anciens salariés du générique. Coucou JB. Et donc c'est un concours de jeux de danse, donc c'est un tarif à participation unique et vous pouvez aussi profiter des mangas et vous avez droit, je crois, à deux boissons. À noter aussi en dédicace Stanislas samedi prochain à partir de 15h à la librairie Joseph Gibert. Sauf que je suis passé complètement à côté, c'est pour le perroquet des Batignolles et ça... J'avais complètement oublié de le tilter, puisque c'est non pas une BD originale, mais une adaptation chez Dargaud d'un drama radio qui avait été co-écrit par Bouju et Tardy pour France Inter en 1997. Et je me souviens parce que tout le monde l'a écouté, moi aussi, parce que faut dire que France Inter, ils avaient mis une sacrée promo, mais aussi à cette époque-là, pas mal d'animateurs de radio éphémère écoutaient Inter. Voilà, on fait notre coming out. Et c'est vrai que pas mal de gens l'avaient en référence parce que c'était un peu le retour justement des dramas policiers à la radio tels qu'on le faisait dans les années 50, 60, 70.
Et 40 surtout, hein. Avant la télé en fait. Hein.
Mais c'est l'âge d'or, hein, je veux dire, des productions de la RTF et de l'ORTF. Mais ça, on en reparlera puisque on interviewera Stanislas, sauf que la diffusion se fera bien après. On avait un insert téléphonique qui était prévu, mais on va prendre du retard, puisqu'il ne peut pas se faire si je continue à essayer de joindre. Donc on va entamer directement les chroniques BD dans le supplément week-end avec, pour commencer, un petit peu de art martial. Avec Jocelyn Azorin-Laza et Véchy au scénario et Mad et Andri au dessin, Break, le deuxième tome, s'appelle Section 7, elle vient de sortir aux éditions 12 bis, on avait déjà chroniqué le premier il y a 2-3 mois il me semble, où dans un univers alternatif, les battles de street dance, et si en fait il n'était que des... Et ben c'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Et si en fait les battles de street dance n'étaient que camouflage pour de puissants mages afin de pratiquer secrètement une magie de combat. C'est pour ça que la section 7 poursuit impitoyablement tous les sujets qui pourraient avoir de tels pouvoirs. Bref, Lee Cooper a 15 ans et elle se trouve avoir été raflée par la section 7 et ceci sans savoir pourquoi puisque ses pouvoirs ne se sont pas encore révélés. Jorick est un flic spécial de la section 7, étant entré un peu brusquement dans la vie de cette jeune fille, surtout qu'elle était sous la douche et depuis Monsieur le Béguin a pour la jeune fille. Bref, on est dans ce que l'on appelle une intrigue romantisme-fascisme. Il est flic, elle est paria, il a impitoyablement pourchassé, mais elle est celle qui fait flamber son cœur. Bon, le premier tome de Break était un petit peu décevant de la part des fondateurs de Necomics. On s'attendait à plus de maîtrise. La meilleure preuve, eh ben, ils avaient complètement oublié d'indiquer la place de leur album. On ne sait pas où c'était. Ben voilà, maintenant on sait, c'est à New York. Bon, ça y est, ça, c'est fait. Graphiquement, le deuxième tome est un peu mieux construit. À noter qu'Akhenaton, Dayan se fend d'un texte. Page 40, écrivant les paroles de combat avant un fight de super-héros. Akhenaton a dû se faire plaisir à écrire ce flou, à rentrer dans une histoire, certes un peu convenue, mais qui a quand même un sacré potentiel. On va dire que le tome 2 est celui de la montée en charge, pourvu que le graphisme s'améliore, et surtout qu'il y ait un sacré twist pour que l'histoire nous surprenne vraiment. Break, tome 2, section 7, scénario Jocelyn Azorin-Laza et Véchy, donc qui sont les co-créateurs du label Necomics, dessiné par Mad et Andri, c'est aux éditions 12 bis. Et on revient donc à la partie news, puisque nous avons Didier Passamonic, directeur adjoint du site Actua BD au téléphone. Didier, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu vas bien?
Ben ça va, oui. C'est toujours un peu compliqué les week-ends parce qu'il y a plein de conventions. En ce moment, il y a la bande dessinée balkanique à Paris.
Oui, et d'ailleurs j'étais monté à Paris pour voir l'expo, la très belle expo à la Pinacothèque avec les planches originales
Hugo Pratt.
De Hugo Pratt, qui sont très belles. Il était question au bout d'un moment d'un bis-bis, je crois. La famille avait parlé de faire une saisie conservatoire. Je sais pas ce qu'il en est.
J'en sais trop rien. C'est très compliqué.
Ouais, parce que c'est une histoire de planches qui aurait été subtilisées, donc d'héritage et tout ça. Enfin, on ne sait pas trop quoi. Mais on n'est pas là pour en discuter, mais d'un coup de tonnerre, alors qu'ici il fait un temps mais magnifique à Toulouse, tu peux pas savoir, un coup de tonnerre dans le ciel toulonnais, à savoir le rachat majoritaire de parts dans Soleil Prod par Guy Delcourt. Alors la première question est peut-être un petit peu technique, mais en tant que toi qui as été éditeur et surtout conseiller économique sur le sujet, la première question est relativement simple, est-ce une LBO ou un hostile bid?
Disons que cette situation est avant tout découle d'avant tout d'une situation personnelle de Mourad Boudjelal. Mourad Boudjelal est quelqu'un qui était très impliqué dans son entreprise. On peut dire qu'il déléguait peu, et donc sa présence était extrêmement importante dans Soleil. Or, il se fait que dans un deuxième temps, Mourad Boudjelal s'est découvert une deuxième passion qui est le rugby, et il a pris la présidence du Racing Club de Toulon.
Ouais, relativement récemment, et que visiblement ça semblait être assez prenant.
Il y a déjà 2-3 ans. Et
ça remonte à plus longtemps. Hein.
Du sport te dit que ça remonte à plus longtemps.
c'est en 2006 qu'il a repris le club.
Non, je crois qu'il est rentré. D'abord, il a fait un apport financier en 2006 et c'est en 2007 qu'il a pris la présidence.
En 2006, il était co-président avec Stéphane Lelièvre. Et à partir de 2007, il a été le seul président du Racing.
Voilà. Et donc, toujours est-il que le rugby est son autre passion. Et donc, il avait de plus en plus de mal à gérer sa société dans une période qui est quand même extrêmement complexe en ce moment, c'est-à-dire que il y a une surproduction, la concurrence est féroce, et donc la commercialisation des bandes dessinées demande un travail de chaque instant, et il faut vraiment être opportuniste, rapide, etc. Et Mourad, qui est un gagnant, se rendait compte qu'il n'était plus aussi rapide et plus aussi opportuniste qu'avant, et je crois que c'est ce qui l'a poussé à faire son choix. Et ce choix, comme il le dit lui-même, c'est un choix de vie. Ça a été le rugby. Et on peut le comprendre parce que c'est tout à fait une autre dimension d'entreprise, hein, ce qui correspond à son ambition. Et puis voilà. Et en face, on a Guy Delcourt qui a fait des études pour être banquier et qui s'est laissé entraîné par sa passion à créer une maison de bande dessinée, qui est quelqu'un de...
Auparavant, Guy Delcourt avait, je crois, géré des droits aux États-Unis, à Hollywood, et il a été rédacteur en chef, il me semble, dans une très courte période, à Pilote.
Il a été rédacteur en chef de Pilote à une certaine époque, quand il était encore étudiant, en fait. Il a également fait le choix de la bande dessinée, et comme c'est un gestionnaire prudent, mesuré, et qui a un avantage qui est pas négligeable, c'est que il se trouve à Paris, où se trouve le centre de diffusion, hein, finalement c'est là, il est beaucoup plus proche du centre de commercialisation que ne pouvait l'être Mourad à Toulon. Eh bien, c'est un peu lui qui a pris l'ascendant sur un duo qui, il y a quelques années, avait créé le distributeur Delsol, hein, Delsol venant de Delcourt et de Soleil, et qui est encore aujourd'hui un des meilleurs distributeurs de bande dessinée de France. Oui, donc voilà, c'est Delcourt qui prend un peu l'ascendant sur ce duo qui a marqué la bande dessinée ces 10 dernières années, quand même.
Ouais, c'est parce que depuis plus de 10 dernières années, Delcourt, en fait, les 25 ans cette année, Soleil est arrivé 2 ans après, c'était deux destins un petit peu en parallèle. Mais d'un autre côté, il y en a qui disent c'est un petit peu l'alliance de la carpe et du lapin, parce que Soleil était très spontané à une époque, Delcourt était plus structuré, Mourad Boudjelal c'était un peu le flamboyant, celui qui a le stand le plus travaillé à Angoulême. Delcourt lui préférait plutôt mettre en avant ses auteurs plutôt que l'esprit de toute une maison d'édition.
Oui, enfin, j'avais posé cette question à Mourad Boudjelal lorsqu'il avait fêté les 15 ans de sa boîte, en soulignant qu'effectivement c'était une alliance entre la carpe et le lapin, et il m'a tout de suite retourné la question en me disant qui est la carpe et qui est le lapin. J'ai pas pu trop répondre.
Elle, celle-là, elle est pas mal. Ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est que on est d'un autre côté. Tu te souviens de l'interview que on a eu Morgane des Requins Marteaux qui disait on est en pleine crise de surproduction, les éditeurs indépendants ont énormément souffert, notamment aussi des changements de structure. Allô, Didier?
Il y a un truc qui sonne, mais je sais pas ce que c'est.
Bon, c'est pas le mien.
Il y a eu énormément de changements, et oui, c'est vrai, l'histoire des Requins Marteaux, enfin qui met en évidence une grosse tension sur le marché, c'est clair. Cela dit, il faut relativiser les raisons de cette tension et les raisons de cette surproduction. Ça a été peu dit et ça n'a été même jamais dit de façon très ouverte. Il y a en ce moment une espèce de séisme de la bande dessinée dans le domaine des grandes surfaces, dans la grande distribution. La grande distribution est en crise. On sait que Carrefour, par exemple, est en train de vendre DIA et.
Il faut expliquer parce que DIA n'est pas présent en fait sur le Sud-Ouest. Donc DIA, en fait, c'est une spin-off de Carrefour qui est dédié uniquement au hard discount, un peu comme Lidl et Leader Price. Mais ce que tu dis, ça semble être surtout une vente par la contrainte par des actionnaires qui souhaitaient lever du cash.
Oui, c'est ça. Donc, mais c'est aussi la crise économique qui veut ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, face aux tensions sur les matières premières, etc. Donc, je vais pas faire un cours d'économie. En deux mots, la grande distribution aujourd'hui est en crise. Ça impacte sur la bande dessinée. Le paradoxe, c'est que ce sont les grandes séries qui dégustent. Par exemple, l'année dernière, on a vendu la moitié moins d'Astérix que l'année d'avant. Et donc, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, du coup, les éditeurs qui ont moins d'espace en grande distribution sont obligés d'être beaucoup plus actifs sur ce qu'on appelle le premier niveau. Et du coup, effectivement, les places sont chères, les places sont très chères et la situation est beaucoup moins florissante qu'avant, d'autant qu'on n'a plus le poumon que constituait l'arrivée des mangas, qui était à la fois une source de d'activité commerciale et en même temps de cash, parce que sur ce genre de produits, sont beaucoup plus importantes que sur les bandes dessinées normales. Et donc tout ça impacte effectivement. Et donc les acteurs les moins réactifs, les moins... les moins agressifs sont effectivement désavantagés, et c'était un petit peu le cas de Soleil qui avait pas mal réduit la voilure ces deux dernières années pour des raisons de prudence éditoriale, mais cette prudence lui a desservi dans la mesure où quelque part ça a permis aux autres qui étaient beaucoup plus dynamiques et plus agressifs que lui d'arriver à placer leur bille. Et donc voilà, c'est à la fois un choix de vie, le résultat d'un choix de vie, et en même temps une des circonstances économiques qui sont pas forcément liées à la bande dessinée elle-même, qui font que c'est plus dur, que c'est plus difficile aujourd'hui de se défendre dans ce marché.
Alors donc actuellement du côté des grands éditeurs entre guillemets, on a il semble que l'on a définitivement quatre grands groupes. On a Média Participation qui regroupe Dargaud,
Dupuis, Black et Mortimer, Xylam, on a Gallimard avec Casterman et Flic Glacial, donc Delcourt qui a Soleil, qui a déjà Tonkam, qui a aussi une production en propre de manga, Soleil aussi.
Glénat, faut pas oublier Glénat quand même.
J'allais y venir en fait, puisque Soleil c'est aussi là, c'était aussi Cadran, qui était une spin-off qui avait été créée pour relancer un peu la bande dessinée grand format. Glénat qui comporte Vent d'Ouest, qui comporte les anciens, l'ancien catalogue de Albin Michel. On a une concentration, mais ça reste quand même une production relativement artisanale et des groupes qui ont une identité artistique.
Oui, il faut être tout à fait, il faut comprendre que l'édition c'est quand même des petits acteurs. Le chiffre d'affaires de Média Participation c'est de l'ordre de 300 millions d'euros. Je pense que Michelin doit faire quelque part comme 12 milliards sur le total du bilan. On voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Mmh. C'est vrai que c'est artisanal et c'est vrai aussi que la librairie reste quelque chose de, comment dirais-je, de très ancienne économie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un vendeur qui soit persuasif, qui puisse faire comprendre ce qui se publie, etc. Et mais en même temps. Ce sont la culture en général et la bande dessinée en est un des points importants. Ce sont véritablement les rares secteurs où on n'a pas trop à craindre la concurrence, dans la mesure où du Coca-Cola, ça peut être produit dans le monde entier et finalement diffusé. On peut avoir une concurrence qui est globale, tandis que dans la culture, il y a quelque chose qui est profondément ancré dans l'esprit des gens. Et donc, je vois pas très bien un Chinois ou même les Japonais d'ailleurs. Hein, on voit bien qu'il y a des limites dans leur façon de raconter des histoires. Donc ces gens-là sont pas forcément en concurrence avec nous. Mmh. Au contraire, je pense que d'ailleurs, on a bien vu dans les chiffres, quand les mangas ont entre guillemets envahi la France, ça n'a pas été au détriment de la bande dessinée française. Au contraire, ça l'a complètement dynamisé. C'est-à-dire qu'on vend beaucoup plus et on produit beaucoup plus de bande dessinée aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et donc, moi, je suis pas du tout pessimiste. La vraie question, c'est comment est-ce que la grande distribution va sortir de son marasme, et le jour où elle sort de son marasme, ça va être beaucoup plus facile pour la BD d'y revenir, parce que c'est un produit qui est original et qui ne subit pas de façon aussi brutale la concurrence qu'on peut avoir sur d'autres produits qui sont importés d'Argentine ou par exemple sur la viande ou les légumes qui viendraient de l'autre bout du monde. On n'est pas du tout sur le même type d'approche et donc je crois que ce qu'il faut c'est trouver des bonnes idées, les bonnes formules éditoriales qui font que la bande dessinée va rester encore un élément important de notre culture. Mmh.
Je me pose la question en fait si le fait que Mourad Boudjelal cède les parts à Guy Delcourt, je me demande si le destin d'un bon éditeur de médiéval fantastique c'est pas de quitter sa boîte quand sa série phare commence à s'épuiser.
Bon, je sais pas, je pense que c'est une question de destin. Il y a des gens qui naissent et qui meurent dans la société qu'ils ont créée, et donc et d'autres qui ont plus une mentalité de broker, c'est-à-dire qui vendent au meilleur moment. Je crois que ça correspond totalement à l'esprit de Mourad Boudjelal. Et donc non, je vois pas. Je pense pas qu'il y ait de destin qui soit inéluctable. Ce qui est vrai, c'est que comme disait Paul Valéry, aujourd'hui nous savons que même les civilisations sont mortelles. Oui, les boîtes d'édition peuvent mourir aussi. Les grandes séries qui ont auréolé notre enfance peuvent mourir aussi. Mmh. Demain, peut-être qu'Astérix ne sera plus rien si les ayants droit ne font pas gaffe à garder une qualité suffisante. Donc, je crois que Oui, les mythes peuvent mourir aussi.
Alors, tu sais que dans notre émission, on a un spécialiste de séries télé et de comics qui s'appelle Du Sport. Mais s'il a ce sobriquet, c'est surtout parce qu'il fait une émission sportive depuis plus de 25 ans. Et je lui ai demandé de se pencher un petit peu sur le Racing Club de Toulon. Alors, je sais pas si Didier, tu as une question pour le lancer.
Non, pas spécialement. Des merdes.
Alors, est-ce que ça coûte parce que c'est vrai qu'en plus dans le rugby aussi, il y a actuellement une actualité un petit peu secouée puisqu'il est question que le Stade français de Paris descende en Ligue 2 faute de.
Non, en Ligue 2, il serait rétrogradé en fédéral, hein, c'est-à-dire qu'il serait pratiquement plus professionnel du tout. Hein. Attention.
Pour cause de faillite. Alors, est-ce que un club de rugby, c'est une danseuse qui vaut vraiment cher, une danseuse pas très gracile?
Non, ça vaut pas énormément cher. Hein. Comparé à d'autres sports collectifs comme le foot, par exemple, ça vaut vraiment peanuts. Hein. C'est-à-dire qu'avec le budget du club de Toulon, par exemple, on achète un joueur de classe moyenne pour la Ligue 1 en France. Hein, le budget est pas énorme, il doit être de l'ordre de 12 à 13 millions pour l'année en cours, enfin l'année qui vient de se terminer. Donc c'est pratiquement peanuts. Hein, franchement.
C'est pratiquement peanuts, mais est-ce que là où Mourad Boudjelal s'était fait avait fait un grand coup d'éclat dans le RCT, c'était par son arrivée qui a permis de financer en fait un transfert qui a été carrément inédit en France.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon, bah à partir du moment où il reprend le club, il dit ok, bon il y en a marre, parce que il faut savoir que le Racing Club de Toulon, fondé en 1908, avait toujours connu l'élite quand il a accédé à l'élite en 1917, et en 2000. Il y a un trou de 10 millions de francs. Et donc, le Racing se fait rétrograder, non pas sportivement, mais administrativement. Et il va végéter en Ligue 2 ou en Division 2 jusqu'en 2005. Il va remonter en Division 1 en 2005, mais redescendre à l'issue de la saison tout de suite. Et c'est là que Boudjelal intervient. Il se dit, non, c'est pas possible, c'est le club de mon cœur et tout, je suis de Toulon, donc il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'il commence à s'impliquer dans ce club. Et il s'implique en tant que président, bien sûr, co-président, mais également en recrutant, et en recrutant vraiment très très lourd. Hein. Il recrute Tana Umaga, qui à l'époque est quand même le capitaine des All Blacks.
Ce qui est pas rien, parce que quand tu quittes les All Blacks, quand tu quittes la Nouvelle-Zélande, c'est tu peux plus y retourner, quoi.
Exactement. Mais Tana Umaga était quand même déjà un petit peu en fin de carrière, hein, faut le dire. International, je précise. Et il recrute également deux legs, français, Krenka, Dan Luger, Gonzalo Quesada, un Argentin. Et, mais le Racing échoue quand même en demi-finale d'accession. En 2007-2008, il continue son recrutement de fou furieux avec George Gregan, un Australien qui détient le record de sélection en équipe australienne, 139 sélections. Andrew Mertens, le meilleur marqueur des Blacks de tous les temps avec 967 points. Anton Oliver, 10 fois capitaine des Blacks. Victor Matfield, en 2008 jusqu'en 2010, c'est pareil. Il continue avec Liebenberg, Sonny Bill Williams qui vient du 13, Jamie Robinson, Johnny Wilkinson qui est encore dans le club, et avec Philippe Saint-André comme entraîneur. Alors, il faut savoir que, et ça, vous ne savez peut-être pas pourquoi, je ne savais pas non plus, mais le Racing Club de Toulon a les mêmes couleurs que le Stade Toulousain, rouge et noir. Mmh. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'à sa création, en 1908, eh bien, c'est le Stade Toulousain qui leur a offert quelques jeux de maillots pour qu'ils puissent participer au championnat. Et donc, ils ont gardé ces couleurs, tout simplement. Alors, l'emblème du club, je sais pas, le blason qu'ils ont sur le maillot, hein, c'est un brin de muguet à 13 clochettes, parce que ça porte chance. Pourquoi ça porte chance? Les 13, on sait, mais le muguet, on sait pas trop. Eh bien, tout simplement, il faut savoir que le stade dans lequel joue le Racing Club de Toulon, c'est le stade Mayol, du nom de Félix Mayol. Félix Mayol qui a d'ailleurs œuvré pour la construction du stade qui a été inauguré en 1920. Félix Mayol est né à Toulon et mort à Toulon. C'était un chanteur, un des derniers chanteurs vachement connus de café-concert, et qui, lors de sa première entrée en scène, il y a un copain qui l'a dit, tiens, je vais te filer un brin de muguet, tu vas le foutre sur ta jaquette, et ça va te porter chance. Et depuis toute sa carrière, à chaque fois qu'il montait sur scène, eh bien, il mettait un brin de muguet sur sa jaquette pour que ça lui porte chance pendant le concert. Et donc, on a gardé ce brin de muguet en hommage à Félix Mayol, qui était également un aficionado du rugby, bien sûr, hein, mais parce que, il avait vraiment beaucoup fait pour le Racing Club de Toulon. Il faut aussi savoir que ce stade a une particularité, c'est que il n'y a pas de vestiaire. Les vestiaires sont à l'extérieur du stade, ce qui fait que les joueurs, avant chaque match à domicile,
Bon, ils s'habillent, ils se foutent en tenue, mais il faut qu'ils traversent le public pour rentrer dans le stade. Et ça, c'est toujours vachement impressionnant pour un joueur qui n'est pas au courant du truc, qui débarque dans le club, hein, de devoir traverser une haie de spectateurs pour pouvoir pénétrer dans le stade.
Alors, juste une question complètement par hasard, parce que Mourad Boudjelal, faut pas oublier que Toulon aussi a été une ville frontiste pendant un certain temps.
Ouais.
Que Mourad Boudjelal avait, si je me souviens bien, ses places de la Liberté, non, qu'il avait posé le siège social de Soleil. Didier?
Oui, pardon, j'ai pas entendu la question.
Si je me souviens bien, Soleil, ils étaient place de la Liberté, non?
Absolument, oui.
Ouais,
oui.
Parce que je me souviens que Mourad, dans les années 90, il y a eu des échanges homériques, hein, quand même, avec la mairie frontiste. Il y avait et qui refusait de bouger, etc. Parce que les frontistes, à ce qui paraît, faisaient des piques assez violentes, hein, quand on parlait un petit peu de culture ou qu'on parlait de librairie, de bibliothèque publique, vis-à-vis de Mourad. Mais ce stade-là, il appartient au club ou il appartient à la ville?
Et il appartient à la ville.
Il appartient à la ville. Est-ce qu'on peut imaginer que Mourad pourrait arriver à lever les fonds pour créer justement un stade un petit peu plus moderne et qui appartiendrait au club?
Alors, la question a déjà été posée, hein, et mais seulement les gens, le public tiennent tellement à cette identité, à ce stade, à ce chaudron, hein, il faut bien le dire, parce qu'il y a quand même une ambiance qui est très très spéciale à Toulon. Et ce qui fait que il pourrait peut-être rencontrer pas mal de résistance de la part du public qui se dirait bon bah ok c'est plus l'âme, on perdrait un petit peu de notre âme si on changeait de stade. Bon, après il faut voir dans la mesure où le rugby pourra générer plus de fonds, générer plus de spectateurs, s'il ne sera pas nécessaire, eh bien, de construire un stade un petit peu plus grand. On sait très bien que, par exemple, ici au stade de Toulousain, eh bien, les 7 deniers suffisent largement, hein, pour la majeure partie des matchs du championnat, exception faite de grosses affiches, hein, où il est délocalisé au stadium.
Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que j'ai rapidement refouillé le catalogue de Soleil. Et alors il y a des BD sur le foot, hein, il y a même plusieurs adaptations de dessins animés sur le foot. Mais bizarrement, il y a pas de BD sur le rugby dans le catalogue Soleil, hein, alors que à côté, il y a des trucs qui marchent très bien comme les rugbymen de BK, mais c'est pas chez Soleil.
Alors je m'explique pas trop, hein. Je pense qu'il a pas eu l'opportunité de le faire, c'est tout, hein. Faut des auteurs aussi pour faire des BD, hein.
Ah bon, tu veux dire que cela en France, on reste dans un milieu artistique? On n'est pas dans un système à licence?
Non, mais je pense que la série des rugby qui avait déjà qui a déjà beaucoup de succès, les rugbymen qui a beaucoup de succès chez Bambou, a pris une sacrée longueur d'avance sur Soleil, et donc pour revenir en compétition sur ce type de produit, il faut des auteurs de talent. Et apparemment, Mourad les avait pas dans son entourage. Je pense que c'est la seule explication qu'on peut avoir.
Soleil a c'est vrai un immense catalogue. On a parlé tout à l'heure du spin-off qui avait été confié à Bajram, Cadran Solaire, qui est devenu l'éditeur Cadran, mais qui reste en fait dans le giron de Soleil. Si je me souviens bien, il avait aussi acheté un éditeur de manga qui était spécialisé dans le manga sud-coréen et qui n'existe plus d'ailleurs, il me semble.
Oui.
Ouais, il y a eu des coéditions avec Panini Comics. D'ailleurs, Panini fait partie du catalogue distribué par Del Sol.
Il a un peu tourné court aussi.
C'est ça qui m'est. Il y avait aussi eu une collection de bandes dessinées qui était coéditée avec TF1 autour des téléréalités, de séries comme Les Experts et tout ça. Mais j'ai l'impression en fait que Soleil était.
Oui, il faut pas oublier non plus la il y a une alliance avec Marvel aussi aux États-Unis. Hein.
Mais j'ai l'impression un peu que Soleil, justement, de ce côté-là, ils ont réussi à moins bien progresser finalement. C'est depuis 5 ans que Delcourt, alors que Delcourt, par exemple, avait racheté Tonkam en ayant déjà commencé à développer son propre catalogue de manga. Je crois qu'ils ont quasiment doublé le nombre de sorties qu'ils ont fait en 6 ans.
Oui, en fait, tout ça est lié aussi au fait qu'ils ont créé ensemble une société de distribution dont j'ai parlé tout à l'heure, Delsol, qu'il faut bien la nourrir avec du chiffre d'affaires. Donc les deux éditeurs ont été très dynamiques, mais c'est clair que Delcourt dans sa partie était beaucoup plus et beaucoup moins innovant et moins aventurier que Mourad. Mmh. Cela dit, ces deux trois dernières années, Mourad avait d'autres chers à fouetter.
Oui, ça, je veux bien le croire.
Et donc tout ça est assez visible finalement.
Mmh. Pour terminer, je veux dire, bon, c'est quelque chose qui était plus ou moins connu au niveau professionnel, c'est-à-dire que quand on voulait racheter des droits sur les séries Soleil Productions, c'était déjà géré par Delcourt depuis un bail. Delcourt qui plus est avait des filiales qui s'occupaient de la gestion hors catalogue, comme la société Storyboard. J'ai l'impression que ce qui a un petit peu pêché à Soleil aussi de ce côté-là, c'est qu'ils n'avaient pas de structure hors BD pour valoriser justement leur propre catalogue.
Oui, moi je pense surtout que ce qui a pêché, c'est que Mourad était une espèce d'autocrate, quoi, qui n'aime pas déléguer, qui est très impliqué dans ce qu'il fait. Et finalement, cette session correspond à le constat d'une impossibilité, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut pouvoir déléguer et déléguer à des confiances et je pense que Mourad est beaucoup mieux à sa place dans un club comme celui de Toulon où l'implication personnelle est moins engageante et moins mais où il peut retirer beaucoup plus de satisfaction et tandis que clairement Delcourt depuis quelques années a su déléguer. Et du reste, il rachète Soleil, mais il garde les équipes. Mmh. Et il est plus que probable qu'il va pouvoir beaucoup plus facilement gérer tout ça que Mourad. Et finalement, Mourad a fait une bonne opération parce qu'il reste actionnaire de ces sociétés. Hein. Mmh. Donc, il n'est plus majoritaire, mais il reste actionnaire et il reste également. Il intervient également dans la partie éditoriale, notamment avec les grands auteurs que sont Arleston, Mourier et Tarquin. Donc il s'éloigne, il a perdu la main sur Soleil, mais il n'en est pas parti de la même façon. Il n'a pas quitté le l'actionnariat de Futuropolis, qui est un autre label qui lui appartient. Donc voilà, on peut peut-être un jour voir revenir Mourad Boudjelal quand il aura fini son temps dans le rugby. Donc s'organise de façon tout à fait rationnelle finalement.
Oui, finalement c'était une. Maintenant, alors la toute dernière question au premier juré, c'est maintenant est-ce que les auteurs de chez Delcourt auront-ils à craindre à Angoulême d'être à nouveau contre la Sono de Soleil et leur boîte de nuit?
Ça, alors là.
Parce qu'il faut expliquer, c'est que tous les ans à Angoulême, Soleil déploie vraiment un grand barnum, un mur d'images, une Sono à fond, et c'est vraiment l'ambiance discothèque. Et pendant 10 ans, les auteurs de Delcourt étaient juste en face et s'en plaignaient quand même.
Je pense que le style, c'est l'homme. Donc. Il y a beaucoup de chances que ce soit plus du tout la même ambiance aux prochains Angoulême.
On verra. Je te remercie Didier de nous avoir rappelé d'être intervenu. On rappelle que tu as fait d'ailleurs un groupe.
Et puis on peut le retrouver donc sur ActuaBD.
J'allais y venir.
Com, tous les jours.
Voilà, et à mon avis, avec une suite d'articles, puisque il y aura vraiment une longue analyse à faire justement de ce côté-là, de voir ce que va devenir le marché de la BD dans les 10 années. Qui viennent maintenant. Merci
Absolument.
Didier.
Absolument.
Ciao.
Absolument. Au revoir.
Au revoir. We'll be right back. Didier Passamonique avec du sport sur donc le rachat d'une part majoritaire de Soleil Productions par Guy Delcourt. Mouradou Djellal donc décidant de s'occuper beaucoup plus du Racing Club de Toulon. Petit break musical. C'est le tube de l'été, on l'attend toujours. En attendant, ben, je vais chercher dans les Bottom of the Pops par Gonzalez. Non, c'est l'autre disque. This is dedicated to you. Don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop, oh. I don't stop till you drop to the bottom of the pops. I don't stop, don't stop, oh. I don't stop, don't stop, oh. I don't stop till you drop to the bottom of the pops. I don't stop, don't stop, oh. Why you wanna be on top? Christian rock, doo-wop, or hip-hop. We all lose face and it's all we got. Let me take you down on a merry-go-round through the world that's world-renowned. 15 minutes of shame, how that sound? See a thundercloud ringing on your underground. Ringing on your underground. Ringing on your underground. When I fall, I hope to land on a Persian rug or a music stand or a trampoline or a beanbag chair. Bottom of the pops, I'm halfway there. Listen, man, you had your chance. Now you just sit around in your pajama pants. Don't stop, don't stop. Everybody heard the news, how you hung up your dancing shoes and how you got confused. I hate to say it, you snooze, you lose. You should be an illusionist so you can know what the illusion is. You deserve a role at the tip of the top of the totem pole. Climb that mountain, you got a long way to go, but who's counting? You just got conned by a pro at the bottom of the pond, so on with the show. Don't stop, oh. Don't stop, don't stop, oh. Don't stop till you drop to the bottom of the pops. Don't stop, don't stop, oh. Don't stop, don't stop, oh. Don't stop till you drop to the bottom of the pops. Don't stop, don't stop. Gonzalez, extrait Presidential Suite, Bottom of the Pops. Ouais, allez, j'avoue, hein, là je suis allé un petit peu piocher dans mes archives. On reprend les sorties bande dessinée avec une BD qui nous vient de Chine, Chao Hu, qui en fait est une série qui a commencé à être publiée il y a 2 mois, et dont le deuxième tome vient de sortir. Le premier tome s'appelait Tout va mal, le deuxième tome s'appelle Un monde en double, c'est dans la collection Made in chez Canas. C'est une bande dessinée peut-être un petit peu adulte, même si pour moi c'est plutôt une série à dessiner aux ados, et c'est scénarisé et dessiné par Mai Si. Je sais pas si je le prononce bien. Ciao Hu, X-I-A-O. OU, donc Tiao Hu, est un ado un petit peu rebelle qui répond plus par ses poings qu'en réfléchissant aux problèmes qui se posent à lui. Son meilleur ami, Sun Sen, est né le même jour que lui, donc ils ont l'habitude de faire leurs anniversaires chez l'un et l'autre. Sauf que le père de Tiao Hu est un ouvrier de condition modeste, et que le père de Sun Sen est un capitaliste, est un capitaine d'industrie qui a une immense fortune. Tiao Hu apprend incidemment que sa mère trompe son père, qu'elle va quitter son père, que son père vient de se suicider, qu'il est au chômage depuis 3 mois, et attention, j'ai pas fini, dans la même journée, et ben il apprend, en dormant chez son meilleur ami Wang Sen, qu'en fait, il est l'enfant des parents de cet ami, alors que ceux-ci sont immensément riches. Ah oui, bon, forcément, la trame des deux bébés au destin diamétralement opposé, qui ont été changés à la naissance... Bon, hein, pour moi, c'est un peu le mythe de la princesse perdue, et sauf qu'ici, ben, c'est un jeune lycéen chinois dans une famille ouvrière à la dérive, entre un père alcoolique au chômage et une mère dépensière et joueuse invétérée de mahjong. Bon, un peu groseille et le quinoa dans la vie est un long fleuve tranquille. Bon, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on retrouve, en fait, alors que je suis sûr que l'auteur ne connaît pas le film original, on y retrouve à peu près les mêmes astuces, c'est-à-dire l'éthique, les comparaisons de village, les comportements hérités, les relations entre les pairs. Sauf qu'on a un ado en pleine rebellitude qui doit composer entre son envie de faire un gros fuck à la société, mais pas trop quand même parce qu'il aimerait bien partager tous ses joujoux dont profite son copain, qui a une enfance très heureuse à sa place. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi, attends, je la refais. C'est un drame qui va indubitablement vers la destruction d'une longue amitié minée par les dangers d'une nouvelle fortune qui tombe sur les bras d'un cendrillon moderne et si... non. Ouais, non, en fait, j'en fais trop. Bon, allez, disons qu'au final, c'est larmoyant, convenu, évident comme un soap de début d'après-midi, mais faut avouer une chose. Le graphisme de Mighty, eh ben, il est très beau, il est maîtrisé, il est de belles factures, elle est crayonnée, mis en couleur, à l'aquarelle, eh ben, ça donne... une réelle chaleur à l'histoire. Vraiment, c'est beau. Et ça, on peut pas le lui retirer. Mighty, Tiao Hu, le tome 1 s'appelle Tout va mal, le deuxième s'appelle Un monde en double, et c'est sorti dans la collection Made in chez Kana. Pile sur Radio FMR 89.1 MHz, c'est le supplément week-end et j'en ai marre de ce micro qui arrête pas de tomber. Vous croyez que c'est facile de faire une émission comme ça, qui est intégralement parlée, sans en ayant à tenir le micro, hein? Non, mais sérieusement. Heureusement maintenant, eh ben c'est du sport qui tient la zapette magique et qui va nous dire que l'été, rester à l'ombre, rester bronzé, cathodique.
Avec une série inédite et on se demande comment ils font. Chez France 2, c'est-à-dire qu'ils doivent acheter des séries longtemps à l'avance et doivent se dire bon, on va attendre, on va voir, peut-être qu'on va avoir un trou l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Regardez ce qui s'est passé avec Private Practice qui a été diffusé lundi dernier.
Il y avait aussi Empreinte Criminelle qui en plus était produit en France, donc c'était leur fric hein, qui était immobilisé.
Ouais, alors qui diffusait 4 ans après sa sortie aux États-Unis, alors qu'on sait que d'autres séries sont pratiquement diffusées quelques mois après la diffusion
aux États-Unis, on sait que par exemple.
Il me faut ma dose, vite, amenez les nouveaux épisodes.
Oui, on sait par exemple que le délai est très très court entre NCIS États-Unis et NCIS diffusion en France, quoi.
Ouais, de même que pour Lie to Me. Enfin, M6 de ce côté-là aime bien justement faire amener relativement vite TF1, où ils marrent d'un an et demi des fois.
Hein. Ouais, mais enfin, ils ont un petit peu rattrapé le coup quand ils se sont rendus compte que par exemple pour Heroes, il y avait vraiment trop de gens qui regardaient ça en screening et que donc ça perdait tout son charme hein, de diffuser les épisodes une fois par semaine. Donc ils avaient instauré un nouveau système avec la vidéo on demand et des trucs comme ça quoi pour regarder les épisodes inédits. Bref, mais France 2 non, ils sont absolument pas dans ce trip, ils en ont rien à foutre, ils se disent ouais nous c'est pépère, c'est tranquille, c'est le service public.
Et puis de toute façon les séries c'est juste pour combler les prime time quand on a pas trop envie.
Voilà,
hein.
C'est ça, ouais.
Nous les séries c'est la grande série, en général la costume, historique et tout ça. Hein, bon.
Alors donc une série inédite c'est sur France 2 et en plus en deuxième partie de soirée, bien sûr, 22h40, une série qui n'a pas tellement marché. Qui s'est arrêté au bout d'une saison avec un démarrage on va dire moyen, on va dire épisode pilote à un petit peu moins de 10 millions de spectateurs, ce qui est quand même pas mal hein, une série qui est quand même diffusée par la Fox, qui est quand même produite par un certain Jerry B.
Bruckheimer.
Voilà, Bruckheimer, et avec on va dire une distribution qui est relativement sympathique. Mais c'est encore une énième série qui nous parle de la justice, qui nous parle de cabinet d'avocat, hein, une série judiciaire, donc qui s'appelle tout simplement Justice. Ah ouais. Ils sont pas allés par les deux de la prière. Créé par Tyler Bensinger, qui est quand même producteur également de, qui avait fait quand même Dragnet avant, qui avait fait Cold Case, et
enfin, il a repris Dragnet, hein, il a relancé le truc.
Oui.
Qui là aussi n'a pas marché longtemps, alors qu'elle était vraiment d'excellente facture.
C'est vrai. Et co-créé par David McNally. Alors lui qui est plus le visuel, hein, c'est pas tellement l'écrivain, c'est plutôt le visuel, parce que c'est quand même un réalisateur qui nous a fait l'inénarrable Kangaroo Jack. Si,
oh,
c'est
putain.
Lui. Et Coyote Girl.
Oh non, si. Oh là là. Vas-y, file-moi le script. Ok, je te le fais.
Et réalise également trois des épisodes de cette saison de Justice, avec dans les rôles principaux. Alors ça raconte l'histoire d'un cabinet d'avocats, mais qui va ne s'occuper que des affaires les plus médiatiques aux États-Unis. Hein, donc ça type tout de suite hein, un petit peu le genre de truc, avec dans les rôles titres, donc dans les rôles principaux, Victor Garber alias Kerr Smith qu'on a vu dans Dawson, Roslyn Madder qu'on a vu dans Lost, et Eamon Walker qu'on a vu dans Oz, bien entendu hein.
Ah oui, d'accord.
Eamon Walker quand même énorme, il est énorme dans House quoi. Ça y a pas de problème, c'est un excellent acteur ce mec là quoi. Et donc cette série qui va nous mobiliser pendant plusieurs fins de dimanche soir sur France 2, vu qu'il y a quand même 13 épisodes qui ont été tournés, dont deux qui sont réalisés par Paul McCrane. Alors Paul McCrane qui était auparavant acteur et on se rappelle vachement de sa prestation dans Emergency Room, ER, Urgence. Pourquoi ? Parce que c'est le chirurgien qui se fait découper le bras par l'hélicoptère, rappelle-toi.
J'ai pas pu là.
Et on le voit également un petit peu plus jeune dans...
J'ai perdu entre 30 cc d'adrénaline ou de morphine.
Ouais. On le voit également un petit peu plus jeune dans la bande de méchants, dirigée par Kurt Woodsmith dans le premier Robocop. Il fait également partie de cette bande, tu vois. Mais là, il était vraiment plus jeune. Et donc, il est réalisateur de deux des épisodes de cette série qui s'appelle Justice, donc qui sera diffusée sur France 2 demain soir. Deux épisodes à partir de 22h40. Sinon, on a demain matin, ça c'est pour les plus jeunes d'entre vous, mais également pour ceux qui aiment bien ce genre, des séries d'animation sur France 4 demain à partir de 8h35. Alors, c'est du Marvel et du DC. Tout d'abord à 8h35, les Avengers, mais c'est les nouveaux, hein, c'est la nouvelle équipe. Ensuite, on a un Batman.
C'est nouveau cette prog hein.
Oui, c'est sur France 4. Demain, à partir de 8h35, les Avengers, 9h, Batman, et surtout, le téléfilm, ce n'est pas une série, c'est un téléfilm, et c'est vachement d'actualité, parce que le film va sortir en juillet,
Green Lantern, les Chevaliers d'Émeraude, un téléfilm donc de 9h25 jusqu'à 10h55, un petit 1h20 avec le Green Lantern. Et ça, c'est assez rare pour le signaler quand même.
Et sans pub, on peut y mettre les gosses devant.
Eh oui, c'est pour les gosses, hein, de toute façon, quoi. Donc c'est demain matin sur France 4, Avengers 8h35, Batman 9h. Batman, bon, on les connaît, hein, y a pas de problème. Et quoique, il y a des nouveaux épisodes, hein, c'est-à-dire que bon, la série d'animation continue. Hein, il y a toujours la production, donc il y a peut-être de fortes chances pour que ce soit un épisode inédit. Et donc je rappelle, hein, surtout pour ce téléfilm, Green Lantern, les Chevaliers d'Émeraude, téléfilm d'animation. Et pour la partie film à la télé, j'ai fait vraiment très court, je me suis pas cassé la nénette, un film un jour.
Bon alors ouais. C'est un break musical, hein, parce que sinon.
Ouais, si t'as de quoi, y a pas de problème, hein, on peut y aller tranquille. Et qu'est-ce que tu nous as concocté alors ? Ah bah oui, mais j'ai vu la prog en plus, quoi. Donc
annonce-le.
Bah c'est les White Stripes.
Ouais.
Dutch Till.
Death Letter. I got a letter this morning. What do you reckon it read?
Yeah. morning. The break of day, just hugging the pillows she used to lay.
Death Letter des White Stripes, mon petit hommage personnel à Peter Falk.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs un morceau qui est une reprise qui date de il y a vachement longtemps, hein, parce que je sais que il y a pas si longtemps que ça, j'ai passé une version des années 20, hein, chantée par une nana, Ida Cox d'ailleurs, et le morceau remonte encore à plus loin, quoi. Et
voilà,
c'est qui a été repris maintes et maintes fois.
Si vous nous écoutez que par le podcast, néanmoins, allez sur le blog de Du Sport parce qu'il met tout à prog et il y a souvent du Hanky Williams. Et là, il arrive et il fait: les gars, ça va trancher. J'ai du film, du 16, du 35 mm et tout, même du support vidéo.
Ah ouais, il y a de tout là, il y a de tout. Il y a du film inédit en salle, il y a de l'asiatique, il y a du film d'animation, il y a du polar pur et dur, il y a du nanar, il y a du film art et essai et il y a du fantastique. Bah, tu vois, c'est bon, il y a pratiquement de tout. Alors, ce soir, un film dont je vous avais chroniqué la bande dessinée dans cette émission il y a un peu plus d'un an, on va dire, et qui n'est pas sorti en salle en France. C'est le film The Losers de Sylvain White en 2010 avec...
C'est pas vrai, ça a été adapté au cinéma.
Mais oui, 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 mais je t'avais dit.
Oh, punaise.
Je l'avais dit que l'adaptation était en cours quand j'avais chroniqué cette bande dessinée. Et c'est sorti à l'automne dernier, ce film. Mais par contre, pas en France.
Ok.
Voilà. Et peut-être même pas aux États-Unis, je crois. Inédit en salle, ça veut rien dire ce que ça veut dire. Donc, avec quand même un casting qui est pas trop dégueulasse, hein. Jeffrey Dean Morgan, Columbus Short, Idris Elba, le grand black qu'on voit dans la série The Wire, hein. Chris Evans, qu'on va bientôt voir à l'écran cet été, hein, non, avec un bouclier et puis un casque.
Hein, vas-y, venez les nazis, venez.
Ouais, ouais, allez, vas-y. Et la magnifique et ravissante Zoé Saldana, qu'on a vue dans... Que le film, tout le monde l'a vu, sauf moi. Avatar.
Oh, moi non plus, je t'avouerai.
Ah bon, d'accord, on est deux.
Ah non, je suis pas allé le voir, Avatar.
Ok, The Losers, donc l'histoire d'une bande de mercenaires, on va dire, qui font une opération dans un pays sud-américain, mais qui se rendent compte qu'ils ont été manipulés et qui décident de se retourner contre les donneurs d'ordre. C'est pas mal, c'est sympathique. La bande dessinée était pas mal, elle était vraiment bien
rentrée. Ouais, elle cartonnait pas mal, elle était vraiment bien, quoi.
Ouais, ouais, avec un graphisme intéressant, moderne, mais bon, ça valait le coup. Le film, bah, il faudra juger sur pièce, donc c'est ce soir sur Canal+, à partir de 20h45. Séance de rattrapage demain soir à la même heure sur Canal+, décalé, pour The Losers. Demain, sur Canal Jimmy, donc ça veut dire en version multilingue, donc ce sera du coréen. À 22h25, Le Bon, la Brute et le Cinglé, un film qui a été chroniqué
par Thomas.
De Kim Ji-won en 2008 avec Song Kang-hoon, Lee Byung-hun, qui est, je crois, l'acteur principal de Old Boy. Jung Woo-sung et Oh Seo-won, donc Le Bon, la Brute et le Cinglé, demain soir à 22h25 sur Canal Jimmy. Lundi, sur Cinéfix à 21h. Et en plus, chaque fois, je vous ai choisi une chaîne différente, hein. C'est jamais la même chaîne. De lundi sur Cinéfix à 21h, regardez-le si vous ne l'avez jamais vu. Il date de 81. C'est un film d'animation, mais c'est vraiment bien. Métal hurlant. Attention, c'est comme du
c'est
heavy,
adulte.
Hein. C'est pour, pas les adultes, mais pour ados déjà, hein, on va dire, hein. Parce qu'il est moins 10.
Et la traduction française de Métal hurlant étant
Heavy Metal.
Je croyais que t'avais dit le nom original.
Non, mais pas le nom.
Voilà, donc c'est adapté, c'est un film qui est adapté d'une D'une publication française. Voilà, hein, voilà. Ouais, ouais, c'est pas adapté d'une BD, c'est un omnibus. Voilà, c'est le terme technique. C'est-à-dire un ensemble de courts-métrages avec donc ce fil conducteur, cette bizarre boule verte.
Vaste boule, ce loquenard qu'il faut, qui va, amener plein d'aventures et plein de trucs un petit peu trash.
Et puis surtout, mettez la sono à fond. Enfin, CinéFX, malheureusement, c'est AB, donc, traitement de son, un petit peu foireux et master un petit peu merdique. Mais putain, merde quoi, qui c'est qu'il y a déjà? Bah il y a toute la fine fleur de l'époque, hein. Je crois qu'il y a Deep Purple, je sais plus, mais je me souviens que waouh, ça cartonnait quoi.
Ouais.
Non, tu sais plus. Bon,
non, mais bon.
Encore un film que tu as pas vu. OK.
Ah si, mais bon, je me rappelle pas la bande son, tu sais, ça remonte à vachement loin quand même. Parce que je l'avais vu à l'époque au cinéma, donc tu vois, en 81, 82, donc bon, hein, ça fait un peu loin. Mardi sur France 3 à 22h35, un excellent film polar de Richard Tuggle, La corde raide, Tight Rope, avec Clint Eastwood dans le rôle d'un inspecteur un peu louche, avec des faux semblants pas très catholiques, on ne sait plus qui est qui. Une histoire de putes qui se font assassiner avec justement qui se font dessouder avec une corde, et il se trouve que l'inspecteur qui n'est pas Harry dans ce film fréquente également des prostituées. Ouais, il est solitaire, donc pour dégorger le poireau, faut bien ça de temps en temps.
Oh, il l'a sorti. Ah, ça faisait longtemps.
Et c'est un film qui est assez intéressant parce que la fin quand même assez louche, assez équivoque, on ne sait plus trop. Si c'est vraiment lui, si c'est pas lui, c'est pas mal, c'est bien foutu en tout cas. Et Clint est excellent dans ce film, vraiment excellent. Avec à ses côtés Geneviève Bujold, Dan Hedaya et Jenny Beck. Donc La corde raide, c'est mardi sur France 3 à 22h35. Mercredi, c'est Nanar sur TF6 avec une soirée requin, le retour des requins. Le retour de Corinne Nemec dans Raging Charts de Darnie Lerner en 2005, avec à ses côtés Corbin Bernsen, ouais, le dentiste, et Vanessa Angel, yeah. Et à 22h20, le super nanar Malibu Shark Attack de David Lister, avec Peta Wilson, René Bowen, Warren Christie.
Ouais, mais c'est l'histoire. Un nanar revendiqué, est-ce que c'est un nanar?
Ah non, mais attends, parce que bon, quand même, un tsunami sur les plages de la Floride qui réveille et qui ranime à la vie des requins préhistoriques, c'est quand même pas mal. Il fallait trouver ce truc, quoi. Non, pas sur la
je suis sûr, avec beaucoup d'alcool, de touch et une idée à pondre d'ici demain, ouais. Parce qu'on tourne, on en serait capable, hein, mon cher Mich.
Ouais, non, mais bon, et là je me suis lancé, c'est pas sur la Floride, bien sûr, sur l'autre côté, hein, sur le versant ouest des États-Unis, Malibu, hein, bien sûr. Jeudi, on fait dans l'art et essai sur TCM avec La Mouette, l'adaptation de la pièce de Tchekhov par Sidney Lumet en 1968 avec James Mason, Vanessa Redgrave et Simone Signoret. Vendredi, enfin, sur Sci-Fi, Science Fiction, un excellent...
Et attends, c'est pas dans La Mouette où il y a le revolver? Le revolver de Tchekhov?
Non, tu me poses une question bizarre, là.
C'est une technique d'écriture, hein, donc je suis pas très sûr.
Ouais. Il faudra demander à notre chère collaboratrice Monique Blanquet.
Oui, qui s'y connaît beaucoup mieux que nous, c'est
tout
clair.
À fait,
et qui
tout
nous
à
écoute.
Fait.
Hein, qui nous
tout
écoute.
À fait, tout à fait. Donc, et pour terminer, vendredi sur Sci-Fi, L'Échine du Diable de Guillermo del Toro.
Oh,
alors là,
hein,
ok, d'accord, avec Eduardo Noriega, magnifique, excellent acteur, hein, Marisa Paredes, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Voilà pour donc les films de cette semaine.
h 20 sur le Super en week-end, et ben ça tombe exceptionnellement bien puisque y a l'équipe de la production de l'émission sportive qui va pouvoir commencer à l'heure. Et avant donc de rendre l'antenne, je vous rappelle donc que cet après-midi au Tokyo Café, il y a un événement qui s'appelle Musica Geeked, où c'est en fait un concours de jeux de danse, si vous voulez vous essayer à Dance Dance Revolution, à tous les jeux de rythme et tout ça.
en groupe. Ah, les trucs où tu mets les pieds sur des pattes, ouais, comme ça. Là,
c'est ça, en suivant la musique, en général une dance très rapide, etc.
Ouais.
Et puis tu as les jeux comme Guitar Hero, etc., qui sont beaucoup moins rapides, qui sont pas des musiques, qui sont faits pour jouer, mais on a pris des musiques du top 50, en fait, pour les adapter à ce genre de jeu, donc c'est l'occasion de tester la différence entre les deux. Plein d'autres choses, on peut aussi profiter du manga Kina, donc de leur catalogue de manga pour les lire. Il y a aussi de boissons offertes. Bon, c'est un tarif, c'est un petit événement en fait qui sont comme ça, plus ou moins en rapport avec la fête de la musique pour faire un petit truc sympa. Pourquoi tu voudrais essayer avec tes gosses?
Ah non, mais justement, justement parce que bon, l'an dernier quand on était allé au TGS
oui.
Et qu'on avait donc
non mais moi aussi j'ai essayé, il y a une vidéo, heureusement elle est pas publiée.
Ouais, mais juste à l'entrée, c'était juste à droite après une fois que t'es rentré quoi. Enfin non, même juste avant d'arriver aux caisses et à l'entrée, t'avais le truc juste à droite là comme ça quoi. Puis je me rappelle que je sais plus qui, un de mes enfants il regardait comme ça puis il disait mais papa, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils sont pas malades. Les voir bouger comme ça, tu sais, à faire leur mouvement un petit peu.
C'est rien, petit. C'est la tectonique. T'apprendras plus tard.
Voilà.
Ah oui, c'est celui avec les pods où tu es censé faire des mouvements, oui, à la main. T'as les capteurs au sol, donc c'est vrai, oui, que tu comprends pas si tu vois pas les capteurs.
Voilà, c'est ça.
Mais ça, c'est marrant, ça. C'est sportif. Voilà. Et Stanislas sera en dédicace samedi prochain à la librairie Gilbert Joseph de 15h à 19h pour le Perroquet des Batignolles chez Dargo. D'après donc la dramatique radiophonique de Bouju et Tardy. Ma foi, mais qui fait beau, qui fait chaud. Malheureusement, il y en a qui n'ont peut-être arrivé que en cours d'émission et qui se sont dit oh voyons, zappons plus vite dans le podcast, ou bien ah tiens, je vais me mettre sur le stream un petit peu en retard, ou oh je zappe au hasard sur la FM et je tombe là-dessus. Et qui donc ont manqué le début du supplément week-end. Du sport. Peux-tu me dire ce qu'ils ont loupé à être arrivés comme ça en cours de route?
Ah ben, ce qu'ils ont loupé, c'est un précédemment dans Supplément Weekend, déjà diffusé précédemment.
Oh, merci.
Ils ont également loupé deux nécros expédiés vite fait, bien fait. Hein, Gene Colan et Peter Falk. La chronique BD entrecoupée par une page rugby dans laquelle Didier Passamonique nous analyse les pages roses du Figaro. Des gros mots de Daskritch.
Il les écrit.
Des gros mots de Daskritch en direct, live and direct, et une confusion de du sport entre la côte ouest et la côte est des États-Unis.
Non, d'une part majoritaire, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver nos chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, et ça marche très bien. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. En analogique, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et en continu 24-24, 7 jours sur 7, en digital sur radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, jeu numéro 281, premier juré, je chronique 90 bouquins. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec aussi Ultimatum et aussi du sport. Ciao, bye bye, rendez-vous, à plus. Et de suite du sport pour la partie sportive, suivie de la partie musicale.